Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.spot.com.
I was here two summers ago, totally private, no one around, and most of all, it has this otherworldly peacefulness about it. You can really think.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale femmes et cinéma de Le Retour, on va dire. Et oui, parce que c'est Le Retour, la suite de la collection Sœurs Lumière. Alors, les premiers opus étaient parus chez Elephant Film. Hein, et là, les premiers opus, c'était un documentaire sur Alice Guy Blacher et puis deux films de Dorothy Arzner qui étaient parus chez Elephant Film. Et là, c'est Extra Lucide Film qui sort donc deux films, à savoir Property de Penny Allen et All Joy de Kelly Reichardt. On va aussi causer d'un film plus récent, un film de 2020, qui s'appelle Les Sorcières d'Aquelarre de Pablo Agüero. Ça, c'est sorti chez Blackout. Et puis, on va vous parler d'une réalisatrice, qui a été récemment honorée d'une ressortie en salle, voire d'une sortie salle pour plusieurs de ses films, en tout cas sur le territoire français. Sortie salle par les films du Camélia, d'une partie de sa filmographie, à savoir la réalisatrice Ida Lupino, ou alors si on prononce à l'anglaise, Ida Lupino. L'équipe de Culture Prohibée remercie Karine Bach, Sandrine Hiver et Patrice Véry pour leur aide sur cette émission. Pour causer femmes et cinéma, je suis aujourd'hui accompagné de celui que l'on surnomme la bête noire de Compiègne. Je veux bien sûr parler de Damien Demey, cet archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Présent également avec nous, mais à distance, notre ami Thomas Roland, rédacteur en chef de la revue Prime Cut, que l'on surnomme le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre À l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut Damien, salut Gégé, et bien évidemment, salut à toutes.
Nous allons débuter cette émission avec la suite de la collection donc Sœurs Lumière, hein, qui, je vous ai rappelé en ouverture de l'émission, hein, que bon, il y avait eu d'abord Be Natural, le documentaire sur Alice Guy Blacher, il y avait eu deux films de Dorothy Arzner, tout ça c'était sorti chez Elephant Film, et cette collection, elle résulte aussi d'un partenariat avec Splendor Film, hein, aussi, puisqu'il y a une partie des films qui est distribuée en salle par Splendor Film. Et là, il vient de sortir chez deux titres, hein, donc chez Extra Lucide Film, à savoir Property, réalisé par Penny Allen et Eric Alan Edwards. Donc un film réalisé et écrit par Penny Allen. On va découvrir un peu plus Penny Allen, qui est une réalisatrice franco-américaine, que personnellement, je ne connaissais pas avant de découvrir ce film, hein, sorti chez Extra Lucide Film, je dois bien l'avouer. Et c'est un film qui est photographié par Eric Alan Edwards. Eric Alan Edwards, qui, si je ne m'abuse, travaillera à l'avenir avec pas mal de grands réalisateurs, en particulier toute la bande qui vient de Portland, hein, puisque ce qui fait un peu le lien entre les deux titres dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la ville de Portland. Donc dans la bande de Portland, il y a Gus Van Sant, par exemple, il y a Todd Haynes plus récemment, mais il y a Gus Van Sant. Gus Van Sant, là, qui fait la prise de son sur ce film qui s'appelle Property. Alors, Property est intimement lié à la personnalité de sa réalisatrice, hein, qu'on voit en entretien dans les bonus du DVD, parce qu'il n'est pas sorti en Blu-ray, hein, parce que c'est un film tourné en 16 mm, façon documentaire et tout, il n'y a pas de master qui justifie un Blu-ray, donc ce film-là, il est en DVD. Et on découvre, c'est plus un DVD pour découvrir Penny Allen en même temps. Il y a le film, il y a aussi un autre court-métrage réalisé par Penny Allen, qui est cette Penny Allen, donc, qui est réalisatrice, qui est auteure, qui est franco-américaine, qui est née à Portland, qui était professeure de français, puis qui un jour a décidé de tout laisser tomber pour faire du théâtre. Et puis, d'ailleurs, elle va récupérer pas mal des acteurs de sa troupe de théâtre pour signer son premier film, la Property, qu'elle réalise en 79. Et elle réalise ce film aussi suite à un travail documentaire, parce qu'elle travaille aussi pour la télé locale, dans laquelle elle s'implique personnellement. Parce qu'en fait, elle habite une partie de Portland qui doit être rachetée par des promoteurs et tout, et en fait, eux sont locataires, et les locataires vont devoir quitter leur domicile. Et elle fait un reportage sur cette action qui consiste en le fait de racheter, en fait, les maisons et les terrains par l'ensemble de ces locataires qui vont se constituer en communauté. Alors, bien sûr, c'est une communauté un peu d'excentrique, de saltimbanque. Dans cette communauté, on va retrouver par exemple Walt Curtis. Alors Walt Curtis, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais Walt Curtis, c'est qui fait là un poète écrivain, et il a, c'est d'ailleurs lui qui ouvre le film, hein, c'est lui qu'on voit dès le début. Il a écrit en fait un roman, un seul et unique, qui s'appelle Malanoche, et qui en fait servira de base à Gus Van Sant quand il va faire son premier film. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est un peu passé à la postérité. Et puis, il y a Lola Desmond qui fait un peu l'héroïne. C'est les trois quarts, voire 90% du film, c'est comment on va pouvoir récupérer de l'argent pour racheter, en fait, toutes ces propriétés, pour devenir nous-mêmes propriétaires. Comment tous ces gens un peu idéalistes, alors ces gens un peu de toute nationalité, de toute ethnie, même de toute taille, puisqu'il y a le fameux Corky qui fera une carrière après au cinéma assez importante, même si le fait qu'il soit un nain fait qu'il avait surtout joué dans des rôles un peu particuliers, des personnages toujours dans des films fantastiques. On le voit dans Caveman de Carl Gottlieb ou dans Légende de Ridley Scott, par exemple. Lui, c'est une tornade, Corky. Il joue son propre rôle, hein, dans le film, hein, puisqu'il est un adepte du stand-up. Et on ne sait jamais s'il déconne, s'il dit la vérité. Il a parfois un humour très noir. C'est l'acteur qui fait vraiment qui se détache de cette tribu d'acteurs. Et puis Lola Desmond, qui est un peu l'héroïne du film, c'est elle qui va toujours auprès des banquiers, qui va toujours demander des sous, porte un peu sur elle, sur ses frêles épaules, tout le poids de cette lutte.
You seen the sign?
What sign?
The city block
God
the sale
damn,
sign.
Damn, son of a bitch!
What's going on here?
They're Victorian.
Do you know most of the people? You know most of the people?
Down beneath the wrecker's claw, in the dust.
Any yards?
Yeah, in India, the horse.
How big are the yards?
What price victory? All power to the people!
You guys,
I'm going around with people in the neighborhood and asking if they'd like to get involved in helping buy the block.
No,
I'm be interested?
No, I'm not interested. Thanks. Yeah. Sorry.
Listen, based on the information that you've just given me, what I'm trying to tell you is that we cannot consider granting a loan to the group.
We now have $43,000.
C'est filmé caméra à l'épaule, hein, c'est très mobile. Hein, c'est évident que c'est un tout petit budget. Ça, c'est sûr, c'est un film indépendant, assez fauché quand même, mais bon, ça passe. On voit cette vie en communauté, mais on n'évite pas tous les clichés. Hein, on fume un peu de marijuana. Il y a une partie carré aussi. Ben voilà, des choses comme ça. Bon, mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir, on est en 79, alors déjà cette ville de Portland qu'on n'a jamais vue au cinéma, c'est la première fois qu'elle apparaît au cinéma, de voir aussi toutes ces minorités de toutes les couleurs de peau et de toutes les orientations sexuelles mélangées. C'est pas si fréquent que ça quand même, hein. On est en 79, hein. C'est pas encore un discours très présent. Et puis c'est aussi un des rares films de Penny Marshall, parce que malgré tout Penny Marshall n'a fait que 5 films et un seul court, donc qui est présent sur le DVD. Mais elle a, avec ce film, et c'est pour ça que ce film est important en fait, non seulement il a été primé au tout premier festival de Sundance, alors qu'il s'appelait pas Sundance, et puis c'est le film qui lance en fait toute l'industrie du cinéma à Portland. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de film qui se faisait à Portland. Donc, dans ce sens-là, le film est très important. Après, le film porte aussi c'est un document sociologique très intéressant, mais il porte aussi les limites de ce type d'exercice. C'est-à-dire que, esthétiquement, tout ça, bon, c'est du documentaire tourné caméra à l'épaule. Bon, vous attendez pas à voir le travelling du siècle. Voilà, c'est un film dont le propos est plus intéressant que la mise en scène elle-même. Et après, je connais pas assez le reste du travail de Penny Allen, mais en tout cas, c'est aussi un film important dans le sens où, hein, comme je vous le disais, il met en branle en fait toute la bande de Portland, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, on va retrouver dans l'autre film, hein, parce que une réalisatrice de Portland aussi, qui filme Portland, c'est Kelly Reichardt. Enfin, elle n'est pas vraiment de Portland au départ, hein, mais voilà. Avec le film All Joy, qui est un film très court, où on a deux amis d'enfance qui sont adultes maintenant, qui se retrouvent pour aller camper et partir à la recherche d'une source chaude dans une forêt, donc à côté de Portland. Et il y en a un qui est désormais parfaitement inséré dans la société, qui va être papa, tout ça. Puis il y a l'autre qui sort d'une rupture et qui reste un éternel adolescent, enfin voilà. Et c'est un film assez touchant parce que c'est pas vraiment des road movies ce qu'elle fait, mais ces personnages traversent toujours des épreuves géographiquement parlant. Voir ces personnages fuient quelque chose, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous ces films, hein. Et qu'on retrouve même dans First Co, son dernier film là, qui est sorti en salle il n'y a pas longtemps. Ce qui est intéressant dans ce film, elle a mis 12 ans quand même avant de le faire, après avoir fait un premier film qui avait cartonné, inspiré un peu de son père policier, qui s'appelait River of Grace. Et elle a mis 12 ans pour faire ce deuxième film parce qu'elle a essayé de monter plein de projets qui n'ont pas fonctionné. Et d'ailleurs, c'est pour faire All Joy qu'elle va quitter la Floride pour s'installer du côté de Portland et qu'elle va y rester. Voilà, qu'elle va y rester. Elle va décider de s'installer là-bas, de vivre dans l'Oregon. Et d'ailleurs, c'est dans l'Oregon qu'est filmé, donc All Joy. Et je vous parle beaucoup de la nature parce qu'en fait, c'est un film très particulier dans le sens où j'ai envie de dire, c'est presque un film bouddhiste ou bouddhique, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est un film très zen, où en fait, ça, je vous dis à peine plus d'une heure, on a l'impression qu'il se passe rien, alors qu'il se passe plein de choses en fait, parce que les personnages ont des échanges assez riches. La mise en scène est assez fonctionnelle, c'est volontaire, hein. Et par moment, on sent une volonté naturaliste comme ça, c'est-à-dire mais dans le sens de se mettre en emphase avec la nature, avec les éléments naturels et tout ça. Enfin, c'est assez particulier, en particulier la scène où ils vont trouver cette source chaude. Donc là, il va se passer quelque chose où on va constater que la mise en scène va un peu évoluer. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est... C'est comment dire. Sinon, je vais oublier de vous révéler un peu, de vous spoiler le film, comme on dit, de vous le divulgâcher. Mais ce qui est très, très, très intéressant, c'est de voir comment, en fait, le film raconte une fuite en lien avec comment dire, la nature. C'est-à-dire que la relation entre ces deux hommes, en fait, elle n'est plus possible. En fait, ils sont devenus différents. C'était des amis, mais ils sont devenus différents. En fonction de la réaction des éléments, tout ça, enfin de la manière dont l'eau circule, avec des apparitions d'oiseaux aussi, différentes sortes d'oiseaux, en fonction de tous ces liens avec les éléments naturels, ça va influer sur leur relation. Et enfin, en tout cas, il y a un lien. Voilà. Je vous en dis pas beaucoup plus. Je sais pas si j'ai été très clair, mais bon, il faut voir le film. Vous ferez votre idée. Écoutez Culture Prohibée. Autre film, alors cette fois-ci, là, qui est signé par un homme qui ne fait pas partie de cette collection que je viens de vous citer, là, les Sœurs Lumière. C'est un film qui s'appelle Les Sorcières d'Akelar et qui est un film alors hispano-franco-argentin réalisé par Pablo Agüero qui est sorti en 2020. Année assez catastrophique pour les salles de cinéma quand même, hein, voilà. Et qui sort du coup là en DVD, en Blu-ray, chez Blackout. Et on vous conseille, de ceux qui n'ont pas pu du coup voir ce film en salle, voilà, puisque l'année 2020 a été compliquée pour les salles de cinéma, ça continue à l'être d'ailleurs, de vous précipiter sur ce Blu-ray DVD pour voir ce film qui fait partie pour moi des bonnes surprises, qui est un vrai film féministe, mais ça je vais laisser un peu mes collègues et néanmoins camarades en disserter. Je vais juste vous faire un peu le pitch du film. C'est assez simple, hein. On est en 1609, on est au Pays Basque et on est dans un village de pêcheurs. Les hommes sont partis en mer. Ils partent un certain temps quand ils partent en mer. Et il y a cinq jeunes femmes, dont dedans une très jeune fille, hein, d'ailleurs, qui sont... arrêté par des inquisiteurs qui traversent le pays, hein, et qui vont leur reprocher d'être des sorcières, bien évidemment. Hein, ça. Et parmi ces jeunes femmes, Il y a une certaine Anna qui est jouée par Amaya Aberatsuri. Alors, c'est tourné au Pays Basque avec des acteurs basques. Hein. Là, voilà. D'ailleurs, il y a un jeu avec la langue basque. Enfin, on pourra en parler aussi. Cette Anna, qui est incandescente dans le film, hein, elle va avoir une idée qu'elle sans doute ne connaît-elle pas les mille et une nuits. Mais elle va avoir cette idée qui est assez belle, en fait, c'est de dire, eh ben, écoutez, ils veulent qu'on soit des sorcières, alors on va leur donner notre histoire de sorcière à ces inquisiteurs, mais on va prendre le temps. Parce que si on attend assez longtemps, la pleine lune va arriver, et quand la pleine lune va arriver, nos compagnons, nos maris, nos parents vont rentrer de la pêche. Et à ce moment-là, quand ils vont rentrer, les inquisiteurs, on donne pas cher de leur peau. Hein, voilà. Parce qu'on est au Pays Basque, et d'ailleurs, à un moment, il y a des soldats qui s'enfuient parce qu'ils disent... Attention, si les pêcheurs reviennent, on va se faire tuer, quoi. Voilà, ils se laissent pas emmerder, les Basques. Et à partir de là, ben voilà, c'est cette histoire-là qui nous est contée. C'est une idée de scénario assez basique, mais qui va donner lieu à un film, moi, qui m'a réellement surpris, parce qu'on avait vu avec Thomas au Festival international du film d'Amiens. Alors, je dis pas son premier film, mais en tout cas, je crois qu'il a deux films qui ont dû sortir en salle en France. Celui-là et l'autre, Eva ne dort pas, ce qu'on avait vu avant. Un film un peu étrange sur ce qu'il advient du corps d'Eva Perón après son décès, enfin voilà, qui m'avait un peu laissé dubitatif. Là, par contre, moi, j'ai été emporté par ce film que j'ai beaucoup aimé, mais on pourra y revenir plus en détail. N'est-ce pas, mon cher Damien ?
J'ai adoré le film. dans les premières minutes, j'adore de manière générale les histoires autour de l'Inquisition que je trouve très rares, mais ce film a une puissance qui nous emporte assez vite et qui nous garde durant toute son histoire. Ce qui est intéressant, c'est que les filles sont arrêtées pour sorcellerie, mais en vrai, le film tourne surtout autour du fait que elles ne doivent pas se défendre d'être des sorcières parce que pour les personnes qui le jugent, elles le sont. Du coup, leur seule présence au tribunal, c'est d'avouer qu'elles le sont. Ce qui est assez... qui reflète une grande injustice. C'est un film qui est très violent dans ses rapports hommes-femmes, mais aussi dans ses rapports de la justice, ou plutôt de la force de l'accusateur et de la culpabilisation à outrance des personnes qui sont arrêtées. Ça m'a un peu rappelé de ce fait... Les cinq de Central Park, parce que c'est une histoire qui est inspirée d'une histoire vraie par rapport à des faits dans l'histoire. L'Inquisition qui a vraiment lieu au Pays Basque, et cette affaire aussi est tirée de notes de personnes qui étaient présentes, tout comme l'est l'affaire des cinq de Central Park. C'est un film d'époque qui reflète parfaitement bien le lieu où il... l'époque dans laquelle il prend place. On sent la touche espagnole. Alors, je ne pourrais pas vraiment vous la définir, mais c'est quelque chose qui se ressent et la narration est excellente. Les plans, il y a beaucoup de plans qui sont très beaux et qui varient. C'est vraiment un film beau et même dans son message, du coup, il a une force assez incroyable. Que, par exemple, il y a un plan que j'aime beaucoup, c'est justement le moment où Anna décide de partir à la façon de Scheherazade dans une histoire de sabbat que les inquisiteurs n'ont jamais vu, mais ils sont certains que ce sont des sorcières, donc elles l'ont vu, donc elles doivent leur raconter. Anna commence à inventer avec un enchaînement de plans de finalement leur vie quotidienne. Par exemple, une des filles se cache derrière un âne et Anna dit « celle-ci, je l'ai transformée en âne », quelque chose de très simple. Et au fur et à mesure, il y a un plan que j'aime beaucoup, c'est le moment où elle leur décrit qui est Lucifer, à quoi il ressemble. Et en fait, la caméra fait juste un plan sur l'inquisiteur. Elle fait un zoom avant sur lui. Et en fait, on se rend compte que Anna leur décrit Lucifer. En fait, elle leur décrit juste la personne qui est juste en face de lui. C'est très simple, mais ça fonctionne énormément. Et il y a quelque chose... Il y a une histoire qui est évoquée par l'inquisiteur que je trouve drôle parce que lui, il explique que c'est l'incarnation de la manifestation du diable et comment il emmène tout le monde dans son délire. Alors, il parle de l'histoire de Fro Trofea qui renvoie à l'épidémie de danse qu'il y a eu à Strasbourg en 1515. Et en fait, c'est intéressant parce que lui en parle comme une action du diable, mais aujourd'hui, on a plus tendance à penser à FMD, à un fictional movement disorder qui se répand de plus en plus, notamment à travers TikTok et tout, qui crée en fait des épidémies numériques chez les jeunes qui sont, par exemple, s'ils aiment quelqu'un qui a le syndrome de Tourette, vont développer le syndrome de Tourette. En fait, on a aussi des épidémies comme ça. Par exemple, récemment à Leroy, à côté de New York, plein de lycéennes ont développé des paralysies faciales sans qu'il y ait aucun lien avec le physique et le mental. Mais là, je sors de l'histoire. Et en fait, ce qui est intéressant dans le film, notamment sa fin qui est absolument géniale, c'est que ce n'est pas un film qui parle juste d'hommes, de système patriarcal qui bride des femmes et leur liberté. La fin a un aspect très clip de musique, voire pièce de théâtre, et je pense que ça renvoie aussi à brider un côté créatif de la femme dans l'art qui s'exprime dans son film.
Je crois aussi que la fin, c'est la flamme brûle toujours, c'est la résistance. C'est un grand film sur la résistance, c'est-à-dire que sur la résistance d'un peuple, puisqu'elle utilise même la langue basque pour faire croire à des incantations diaboliques, parce qu'ils entravent, comme disait Léo Ferré, ils entravent que dalle à ce qu'elle raconte. Oui, le personnage dont tu parles, qui est joué par Alex Brendemühl, qui est un acteur qu'on avait déjà remarqué dans l'excellent Madrid uruguayenne, qui est aujourd'hui l'un des réalisateurs au monde parmi les plus intéressants, le réalisateur Del Reino, par exemple, qui est... film fabuleux. Et il interprète donc le personnage de Pierre de Rostegui de l'Ancre. Pierre de Rostegui de l'Ancre, qui en fait, effectivement, a signé des notes sur son voyage au Pays Basque en 1609. Et dans un ouvrage qui s'appelle Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons. Et selon lui, bon, c'est une enquête, hein, voilà, sur ce qu'il a vu au Pays Basque, tout ça. Et lui, s'est inspiré de ces notes-là, Pablo Agüero, pour faire son film. Et il s'est aussi inspiré, lorsqu'il était venu présenter en fait en 2008 son premier long métrage à Cannes, qui s'appelait Salamandra, que je n'ai pas vu. Hein. Et il est tombé sur l'essai de Jules Michelet, La Sorcière. Et c'est là, à partir de là qu'il s'est mis à s'intéresser aussi à la sorcellerie. Ce qui est assez rigolo, c'est que cet essai de Jules Michelet, La Sorcière, va donner la Belladone de la Tristesse, Belladonna, sommet du film d'animation érotique de Eiichi Yamamoto, un film de 1973. Voilà. Mais je vais laisser tout de suite Thomas nous parler de nos sorcières basques.
C'est surtout un film sur des vieux libidineux. Hein. C'est surtout un film sur le désir qu'ont ces hommes qui se réclament de la religion pour juger des femmes qu'ils désirent, les mettre en accusation, les faire culpabiliser de leur propre désir qu'ils n'osent même pas assumer eux-mêmes. Quand elle décrit le démon, justement, et qu'elle décrit en fait l'homme qui est en face de lui, il y a une série de gros plans sur lui où il passe la langue sur ses lèvres de façon très concupiscente. C'est vraiment un film là-dessus et sur le fait que les femmes, en fait, se réapproprient leur corps aussi quelque part. Quand elles inventent des histoires et qu'elles font croire qu'elles font des sabbats, etc., c'est aussi une façon de se réapproprier d'une certaine manière, d'une façon un peu imagée, leur corps et leur liberté par rapport à ces hommes qui finalement n'assument pas leurs désirs, n'assument pas leur sexualité et qui mettent toujours la faute sur l'autre, sur la femme qui considère comme des catins, quoi.
Ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino.
Ternuatik gure portura,
baino ez dugu nahi beste berorik.
Tenuatik gure portura!
Ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik.
Écoutez Culture Prohibée, spéciale femmes et cinéma. Bon, il y a quand même une actrice qui emmène tout sur son passage. Hein. Cette actrice, elle est vraiment assez remarquable parce qu'elle porte pas mal le film sur ses épaules. Bon, les autres sont très bien, mais c'est vraiment elle le personnage principal puisque c'est elle qui prend sur ses épaules de manipuler cet inquisiteur qui est un personnage très ambigu. Lors du final, où elles tiennent la flamme d'ailleurs, hein, il les laisse maîtres hein, lors du fameux sabbat. Hein, elles sont maîtres en fait. Elles le mènent par le bout du nez. Hein, et puis il y a une scène aussi évidemment particulièrement troublante où elle simule en fait une sorte de jouissance, d'orgasme, pour lui manifester un peu l'apparition de Belzébuth. Et lui, en fait, en face, il jouit. Enfin, c'est évident, il ne veut pas que ça s'arrête. D'ailleurs, il y a un soldat qui vient mettre un sac sur la tête de la jeune femme pour lui dire « Stop, c'est indécent » et tout ça. Et lui, il dit « Mais pourquoi tu l'as arrêté, quoi ?» En fait, il avait sa montée de sève, le loustique, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a tout cet aspect patriarcal. De toute façon, on se rend compte. Anna, elle est plus intelligente en fait que ses compères. Elle se rend tout de suite compte que de toute façon, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, elles sont coupables parce qu'en fait, elles sont coupables d'être des femmes. Alors désirables de surcroît, tout ça. Donc, elles sont coupables d'être des femmes. Eux, ils sont arrivés, ils sont persuadés. Alors, il y en a un dans le tas quand même. Qui est un peu le greffier, on va dire ça comme ça, hein, qui fait des dessins et qui prend des notes, qui lui dit tout le temps, oui, mais enfin, dès le début du film hein, d'ailleurs, hein, parce que quand ils viennent de brûler des sorcières quand ils arrivent dans cette ville-là, ils en ont brûlé avant ailleurs, hein, et on les voit en train de brûler, il y a des femmes sur le bûcher, puis ils sont en train de discuter, puis lui c'est le plus vieux d'ailleurs, hein, lui il dit tout de suite, En fin de compte, le sabbat, est-ce que ça existe vraiment ? Il le dit tout le temps pendant le film. Par contre, il n'arrête pas la quête, il continue. Il suit le truc. Hein, voilà, hein, il continue de torturer ces jeunes femmes et tout ça. Donc, bon. Et puis, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, c'est le personnage du curé. C'est-à-dire que ce personnage du curé, qui est idiot, hein, il est bête, en fait. Quoi, voilà. Et lui, en fait, il a un comportement très, très étrange pendant tout le film. C'est-à-dire qu'il essaye d'induire des réponses qui vont permettre aux jeunes femmes de ne pas se faire torturer, de ne pas souffrir. Et puis à un moment, il bascule de l'autre côté. Sans qu'on sache, enfin si on peut deviner un peu, il sauve sa peau en fait. Il comprend à un moment que de toute façon, s'il bascule pas du côté des inquisiteurs, lui aussi pourrait très bien être accusé de sorcellerie. C'est ce qu'ils lui font comprendre aussi à un moment. Mais ce personnage, qu'est-ce qu'il montre ? Eh bien, il montre qu'en fait... Les hommes, ils ne rentrent pas. Donc, ce n'est pas les hommes qui apporteront le salut à ces femmes. La religion ne leur apportera aucun salut. Voilà. La seule manière qu'ils ont de lutter, bah, c'est par leur féminité, c'est par leur intelligence. Voilà, d'ailleurs, ils se font humilier tout du long par une... Ils pensent humilier une vieille dame. Ils sont invités dans son auberge. Elle leur sert une bouffe dégueulasse. parce qu'elle le fait exprès, en fait, hein, voilà. Et elles portent toutes, parce qu'elles sont quand même... Elles ne pratiquent pas la sorcellerie, mais elles croient en des rites particuliers, tout ça. Et elles portent toutes des coiffes qui sont en forme de phallus, en fait. Et elle le dit à un moment... même ça, c'est un acte de résistance. En fait, les femmes sont tout le temps en résistance dans ce film. Et puis, même si le film, on devine qu'il n'a pas un budget faramineux, je trouve qu'il y a une utilisation du découpage, du montage et tout, qui est vachement intéressante. Surtout l'exercice du sabbat, tout ça, pendant ce moment-là, c'est assez impressionnant. Franchement, c'est un... Puis, il utilise bien, il varie les focales, tout ça, enfin... Il est inspiré, je trouve, sur ce film, Pablo Agüero. Et bah, moi, je vous conseille vivement de voir ce film. Et donc, on peut être un homme et faire un grand film féministe. Hein, voilà.
Who are you? Ida Lupino and Howard Duff.
On a décidé de terminer cette émission sur une cinéaste qui a été mise à l'honneur là, par une rétrospective organisée par les films du Camélia, qui a ressorti 4 de ses films. Hein. Au cinéma qu'on a pu voir, hein. Donc il y en avait un qu'on connaissait déjà, qui est Le Voyage de la Peur. En tout, de toute façon, elle a fait très peu de films, hein, puisqu'elle a fait 7 films pour le cinéma. On a pu voir donc Avant de t'aimer, Faire face. Moi, je pense qu'à nous trois, on a dû tout voir, d'ailleurs. Hein. Il y avait Outrage, Je, 7 et Match, Le Voyage de la Peur, Bigamy et Le Dortoir des Anges, qui est un film plus tardif, celui-là. Ce sont des films d'Aida Lupino. Alors, Aida Lupino, qui c'est ? On connaît tous l'actrice. Ce qu'on connaît moins, c'est la réalisatrice. Alors, on connaissait tous Le Voyage de la Peur, parce qu'il est... Moi, je l'avais découvert à l'Étrange Festival il y a fort longtemps. Ce film noir très particulier, très singulier... que je pense Mario Bava a vu avant de faire Rabbit Dogs, Cagni Arabiati, qui est tout simple. Hein, c'est deux types qui partent en virée au Mexique sans avoir vraiment prévenu leur femme. Ils vont certainement faire des trucs pas très recommandables. Voilà. Et ils prennent en stop un type qui est en fait un psychopathe. Voilà. Je ne rentrerai pas plus loin parce qu'on va développer un peu plus sur les films après. Et ça donne un film noir très, très atypique, très réussi... assez impressionnant que le premier film noir tourné par une réalisatrice qui date de 1953. Mais faisons un peu plus connaissance avec Aida Lupino. On a souvent dit que c'était la première réalisatrice, c'est pas vraiment vrai. Il y en a eu d'autres avant elle, mais elles n'étaient pas très nombreuses. Alors, Aida Lupino, elle vient d'abord d'une famille d'artistes. Elle est anglaise déjà, elle est britannique, hein. Elle n'est pas américaine. Elle est née en 1918 à Londres, dans le quartier de Camberwell. Et c'est la fille des acteurs Stanley Lupino et Connie Emerald, qui jouent énormément au théâtre, qui sont il y a aussi des marionnettistes dans sa famille, des danseurs, des clowns, des mimes. C'est une vraie famille d'artistes qui vit de son art et qui est d'origine italienne. Lupino, bon, ça serait un peu douté. Son plus vieil ancêtre à être arrivé en Angleterre. C'était un marionnettiste qui jouait en fait, qui jouait des spectacles inspirés de la Commedia dell'arte, voilà, avec des marionnettes. Elle va au départ être actrice dans des films britanniques, et puis elle va partir à Hollywood, et en particulier, on la remarque en 1935 dans le Peter Ibbetson d'Henri Hathaway, Peter Ibbetson qui est un film assez extraordinaire. Et puis, c'est Raoul Walsh qui en fait une de ses actrices fétiches, hein, avec Une femme dangereuse, La grande évasion, voilà. Et elle va jouer pour des plus grands, Nicolas Ray, Fritz Lang, Aldrich, voilà. Mais elle est très vite attirée par la mise en scène, dès les années 40. Et en fait, elle s'ennuyait en tant qu'actrice. Et elle voulait faire quelque chose de plus intéressant. Donc, avec son mari de l'époque, qui était Collier Young, elle va monter une société de production indépendante qui va s'appeler The Filmmakers. Elle va devenir productrice. Alors, au départ, elle était productrice du film Not Wanted, Non Désiré, qui était traduit par Avant de t'aimer, mais Non Désiré, je trouve que c'est plus révélateur de l'intrigue du film, hein, puisque c'est l'histoire d'une jeune adulte, on va dire, qui tombe enceinte... et qui doit se décider à garder l'enfant, enfin, garder l'enfant, ça c'est sûr, mais je veux dire, à donner l'enfant à l'assistance publique ou à l'élever elle-même, tout en cachant sa grossesse à ses parents. Enfin voilà, c'est assez. Mais c'est pas elle qui devait le réaliser. Elle devait le produire. Et puis Elmer Clifton a un problème cardiaque, et donc elle se met à réaliser le film. Et là, c'est la révélation. Et après, elle va enchaîner plusieurs films. Et à chaque fois, elle va aborder des sujets de société qui sont quand même jamais, mais alors jamais abordés au cinéma. The Bigamist, ben c'est sur la bigamie. Son personnage principal est bigame. Elle va parler du viol dans Outrage. Elle va parler aussi d'en faire face de la reconstruction après avoir eu la polio, parce qu'elle a elle-même eu la polio, il faut savoir, Aida Lupino. Donc, elle va aborder des sujets que personne d'autre n'aborde. Elle va se révéler être une réalisatrice très, très, très talentueuse. C'est aussi quelqu'un qui écrit, hein, d'ailleurs. Hein. Il faut savoir qu'elle a, par exemple, scénarisé « Ici, Brigade criminelle » de Don Siegel, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment... Alors après, elle va finir sa carrière à la télé, puisque The Bigamist, en 1953, ça va un peu signer sa fin de carrière, parce que ça n'a pas marché du tout. Voilà. C'est le seul film où elle joue, d'ailleurs. C'est un film assez intéressant, puisqu'après, elle divorce de Collier Young, mais ils sont toujours ensemble pour bosser dans The Filmmakers. Et c'est quand même dans ce film-là la nouvelle femme de Collier Young qui fait sa rivale en amour. Sauf que là, c'est elle la maîtresse. C'est assez rigolo. Je pense pas que ce soit innocent. Mais bon, de tout ça, de toute façon, on va parler un peu plus en détail avec Thomas et puis notre ami Damien. Parce que je crois que vous aussi, vous êtes plongé dans cette filmographie d'Aida Lupino. Qui se révèle particulièrement passionnante, qui est une vraie, pour moi, qui a été une vraie découverte. Je connaissais que Le Voyage de la peur et j'ai été agréablement, surpris par la qualité, la cohérence de l'œuvre, le fait que ce soit vraiment une auteure à part entière. Quoi.
De Aida Lupino, j'ai vu Le Voyage de la peur, qui, comme tu l'as dit, est un film noir et qui, comme tu l'as redit, est souvent marketé comme le premier film noir. Fait par une femme qui est réussie. Ce qui est intéressant dans son film, c'est vraiment de reprendre finalement ce truc du film noir et odieux de limiter vraiment à la ville qui cloisonne et qui est anxiogène. Elle décide d'en faire un road movie, ce qui est un genre de film très américain, mais qui parvient quand même à garder cette tension tout du long. Et j'aime bien ces films où en fait... pour le coup, les criminels et les victimes ont le même objectif, c'est que tous les deux doivent s'échapper. Le criminel essaye d'échapper à la police, tandis que les otages essayent d'échapper à leur kidnappeur. Et je suis passé un peu du tout au tout, parce que j'ai vu Le Dortoir des Anges qu'elle a fait, qui est plus de la comédie, et qui m'a... alors, étrangement, il m'a beaucoup marqué, pas parce que je le trouve drôle, mais parce que je retrouve des éléments, entre guillemets, de mon enfance dedans, qui est qu'au début du film... Il y a quelque chose qui me plaisait, mais j'arrivais pas à savoir quoi. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'histoire que ça me rappelait beaucoup le dessin animé Les Malheurs de Sophie. Avec finalement ces deux enfants qui font constamment des farces. Ah oui, donc l'histoire, c'est l'histoire de Rachel et Marie, deux adolescentes qui rentrent ensemble dans un pensionnat de jeunes filles tenues par des religieuses. Et les deux filles y enchaînent les farces aux grandes dames de la mère supérieure. Et donc, la première partie, elles vont rester 3 ans dans ce pensionnat, et la première partie, c'est vraiment elle qui se pose en résistante, à constamment faire des blagues et à exaspérer tout le monde. Et le film avance comme ça, et il y a un moment où il y a un tournant, où elle se calme, et on passe du point de vue de la mère supérieure, et on découvre en fait le personnage, et on passe finalement de cette confrontation à quelque chose qui est transmis par la réalisation de manière très douce, qui est le point de vue... de la mère supérieure, et au final, c'est un peu la fin habituelle où la mère supérieure et les enfants, les deux filles se comprennent, mais il y a quelque chose de très beau dans ce film qui est une comédie, mais que je n'ai pas trouvé drôle, mais qui aborde un thème qui est parfaitement et que j'adore, qui est simplement celui de grandir. Et à travers ça, le film m'a beaucoup touché. Et en fait, c'est très intéressant du coup, parce que j'ai fait vraiment polar et comédie. Et je trouve qu'elle a un style de réalisation très varié et que dans les deux, elle s'en sort vraiment très bien. C'est-à-dire que dans Le Voyage de la Peur, j'aime beaucoup... elle arrive à maintenir une tension entre le kidnappeur et ses otages et à développer leur personnalité à travers le film. C'est-à-dire dans le premier, on voit de... Enfin, on déteste le criminel au fur et à mesure. On a de plus en plus peur pour les otages. Et là, ici, on rentre dans une situation de conflit qui, finalement, va s'amoindrir et amène à un happy ending. Et en fait, plus j'en parle, plus je me rends compte que c'est ultra intéressant parce qu'on se retrouve avec deux films qui tournent vraiment autour de trois personnages constamment qui sont des relations différentes, l'opposition ou non. Et du coup, dans les deux, elle arrive pleinement à se... Ces deux réalisations sont parfaites. Keep driving.
Écoutez Culture Prohibée.
Le Dortoir des Anges, c'est un peu particulier. Alors, je l'ai vu il y a quelques temps déjà parce qu'il était passé sur Ciné Classique, je crois que ça s'appelle la chaîne. C'est un film un peu curieux dans sa filmographie. Il est différent quand même du reste de sa filmographie. Elle le fait en 66, soit 13 ans après son précédent film, The Bigamist, Bigamy donc en français. Et quand elle fait ça, enfin c'est pas la période de sa vie, c'est pas le moment où elle est la plus créative. Ça en reste pas moins que c'est un bon film, hein. Je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que Ida Lupino, c'est une réalisatrice qui a une certaine faculté de s'adapter à ses sujets. Quand il y a pas de gras dans ses films. Si on prend par exemple Not Wanted, là, Avant d'aimer. Le film démarre un peu de manière très curieuse. On voit cette jeune femme qui arrive vers l'écran comme ça. Le générique qui défile qui défile comme un générique final, mais au début, c'est un truc qui se fait beaucoup aujourd'hui, mais qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Et on voit cette jeune fille qui arrive, une jeune fille interprétée par Sally Forrest, qui est un peu son actrice fétiche, hein, puisqu'elle joue dans tous ses premiers films, et qui va prendre un bébé, voler un bébé en fait dans un landau. Et elle va finir au poste. Et à partir de là, il va y avoir un flashback qui va montrer comment elle en est arrivée là. Et le film va être une longue introspection sur comment cette jeune fille bien sympathique, élevée par des gens bien sympathiques malgré tout, même si sa mère est un peu plus réac, mais bon, voilà, malgré tout, ils ne veulent pas de mal à leur fille. D'ailleurs, c'est une constante ça, du cinéma de Lupino. Parfois, les personnages sont un peu lâches, sont un peu... Mais hormis... Dans le Voyage de la Peur, il n'y a pas de méchant dans son cinéma. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est un cinéma dans l'écriture qui est assez riche. C'est pas caricatural, c'est pas manichéen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de mauvais bougre. Il n'y a pas de personnage vraiment mauvais, vraiment nocif. C'est à part, je dis bien Le Voyage de la Peur, où là le psychopathe, il est voilà, en plus avec son œil torve là, il est particulièrement flippant. Et bon, et on voit bien, comme tu le dis, qu'elle a un style de réalisation qu'elle adapte à chacun de ses films. C'est aussi son grosse expérience télévisuelle. Elle a beaucoup travaillé, La Quatrième Dimension, Alfred Hitchcock présente. Enfin, elle a fait beaucoup de télé, donc elle a une grosse expérience, y compris des petits budgets, du coup. Hein. Et quand elle fait ce film-là, Avant d'aimer, par exemple, donc on a un film où il y a beaucoup de gros plans. On travaille beaucoup sur le visage de cette jeune fille, parce qu'on essaie de... C'est normal, puisqu'on est dans l'introspection, donc elle essaie de savoir ce qui se passe dans son cerveau. Et puis, tout à coup, comme c'est une fille qui bascule un peu, c'est pas qu'elle est folle, hein, c'est qu'elle est tourmentée. Donc elle bascule dans des moments de crise d'angoisse, de folie. Et ces moments-là sont des moments de mise en scène complètement hallucinants, où le cadre se tord, où on est quasiment dans l'onirisme. Et là, on voit que Lupino, elle a effectivement quelque chose, elle a un style. Qu'on va retrouver d'ailleurs ce même style dans Le Voyage de la peur, où là, par contre, il y a de la mise en scène, peut-être un peu trop de musique, mais à l'époque, il y avait... C'est une époque où il y avait aussi pas mal de musique dans les films, mais elle explore super bien le 4 tiers, parce qu'elle ne filme pas toujours en 4 tiers, mais là, elle explore super bien le 4 tiers dans celui-là. Et puis, il y a surtout tout le début, moi, qui me rappelle, pareil, je pense que John McNaughton, pour Henry, pour Professeur et Killer, il a vu le film de Lupino, parce que tout le début, on ne filme que les pieds du tueur, et où on voit ses victimes après coup, mais c'est pareil, on voit que leurs jambes, mais on ne voit jamais le tueur. Et c'est assez impressionnant. Enfin voilà, il y a des moments. Et par exemple, si on prend son film qui a suivi Avant de t'aimer dans Not Wanted, qui s'appelle Faire Face, ben là, dans Faire Face, on est quasiment dans une réalisation documentaire. C'est-à-dire qu'on va être dans ce centre de rééducation pour les gens atteints de la polio. Et là, il n'y a rien de spectaculaire dans la mise en scène, puisque ça desservirait le propos. C'est tourné d'ailleurs dans un vrai hôpital où on soigne des gens pour la polio. Hein, et qu'il y a des vrais patients dans le film et tout ça. Et. Après, elle enchaîne sur Outrage, qui est un film qui a pour but de dénoncer le viol et la domination masculine. Et là, ce qui est intéressant, c'est la scène de viol, qui rejoint d'ailleurs une des scènes de Avant de t'aimer sur un pont. Là, il y a une scène de viol où elle utilise les éléments de décor pour le découpage de sa scène et pour le montage, qui est vraiment hyper impressionnante et totalement cauchemardesque, où là, on retrouve un peu l'aspect cauchemardesque qu'on pouvait pressentir dans quelques-uns de ses films précédents. Et puis, tu as des films après. Alors, Je sais tes matchs, je ne l'ai pas vu, mais tu as, c'est le seul que je n'ai pas vu, en fait. Tu as Bigamy, où là, c'est pareil. Une fois de plus, la mise en scène s'adapte au sujet. C'est toujours une mise en scène sans gras, mais on est dans quelque chose de plus discret. C'est assez étonnant. Ce qui est assez étonnant, c'est que le scénario, pour une fois, n'est pas signé d'elle, mais de Collier Young, donc son ex-mari qui vit désormais avec John Fontaine. Et c'est elle, dans le film, qui joue la femme qui trompe John Fontaine. Donc c'est assez étrange. Mais par contre, ce bigame, c'est pareil. Il n'est pas montré comme un salaud. Il est lâche, hein, quand même. Il n'est pas... Voilà, il n'est pas... Il ne peut pas dire qu'il prend beaucoup ses responsabilités. Et on est encore sur le thème de l'enfance, puisque dans le premier film, c'était une fille qui devait abandonner son enfant. Dans Le Dortoir des Anges, on est sur l'enfance. Dans ce film-là, c'est des parents qui veulent adopter, parce que la femme ne peut pas avoir de bébé. C'est quand même un sujet dont on ne parlait pas beaucoup à l'époque, on est en 53. Donc ils décident d'adopter, et puis, sauf que lui, il a déjà une autre femme, en fait. Et ça, on va le découvrir au fur et à mesure de l'intrigue. Donc on a des sujets assez ambitieux. Une mise en scène assez mouvante, mais quand même avec des... Je trouve une façon de casser le cadre et tout quand on est dans des moments cauchemardesques dont on reconnaît sa patte. Et puis surtout, ce qui est fort, c'est qu'elle maîtrise très bien l'écriture, elle utilise très bien les flashbacks, la voix off et tout ça, c'est un truc qui revient dans tous ses films. Ça donne quelque chose d'assez impressionnant, d'assez cohérent. Je trouve vraiment que c'est une cinéaste assez passionnante.
Pour moi, le film qui m'a le plus aimé, c'est Outrage. Je trouve qu'au niveau de la mise en scène, c'est très maîtrisé. Mais il y a aussi une façon de mettre en scène la séquence de viol, qui est quand même assez impressionnante. Hein. On a vraiment l'impression d'être dans un cauchemar vivant, quoi, où ce personnage est pris dans un labyrinthe dont elle n'arrive pas à sortir. Le découpage, le travail sur le son, vraiment... Il l'enferme complètement dans ce piège. Et il y a tout un jeu aussi sur les barres, sur la composition, qui est en résonance avec un signe distinctif du violeur. Hein. Et elle reprend ça plusieurs fois dans le film, parce que c'est aussi un film sur le fait d'une femme qui doit se reconstruire après un viol. c'est pas vraiment un film sur le viol, c'est un film sur la reconstruction d'une femme après qu'elle ait été violée, quoi. Je trouve, pour moi, c'est son film le plus maîtrisé. Il y a aussi The Bigamist qui est intéressant parce qu'elle ne juge pas son personnage. Alors qu'on pourrait s'attendre, de la part d'une femme, qu'elle juge son personnage, qu'elle juge justement cet homme qui est marié, qui a une maîtresse et qui mène une double vie. Mais non, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne le juge pas. Mais en fait, elle est comme le personnage à qui il se confie. Il ne sait pas s'il doit avoir pitié de lui ou si... comment il tourne ça déjà ? S'il doit le mépriser ou s'il doit avoir pitié de lui. Donc, il y a un peu ça. D'ailleurs, le film reste sur une fin ouverte. Elle ne tranche pas sur l'avenir de ce que va devenir cet homme au jugement lors de son procès pour bigamie. Donc. Et c'est assez je trouve que c'est assez intelligent de sa part par rapport à ce genre de sujet.
Ben si après ça, on ne vous a pas donné envie de découvrir le cinéma d'Aida Lupino, hein, on vous invite à essayer de vous... Alors, les films sont disponibles en VOD sur Ciné+. Comme c'est des films de patrimoine, ils vont peut-être encore jouer par chez vous, hein, distribués par les films du Camélia. Puis on espère maintenant que tout cela va être suivi par un éditeur vidéo qui va nous sortir tout ça. Ce serait intéressant de sortir une belle intégrale, Aida Lupino. Donc une cinéaste que nous vous encourageons à découvrir.
Big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I will meet him Sunday, maybe Monday, maybe not.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur theextasyoffilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
Want a thing I daren't hope for. What can I hope for? I wish I knew. Why do I try to draw you near me? Why do I cry? You never hear me. But what can I do?